Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Il s'agit ici de la dernière émission de notre saison 2020-2021. Alors pendant vos vacances, restez-nous fidèles, sachez que plus de 350 émissions, 350 podcasts sont disponibles sur notre site. Rendez-vous donc sur storiavoce.com, que vous soyez sur la plage, en montagne ou ailleurs, écoutez nos podcasts et surtout faites écouter nos podcasts. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à commenter cette émission, n'hésitez pas à la liker ou bien même encore à la diffuser. Jean Lopez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter ? Nos auditeurs vous connaissent bien. Les deux émissions que nous avons enregistrées ensemble, celles consacrées à Barbarossa, sont simplement les deux émissions les plus écoutées de Storia Voce. Or, je vous ai invité à revenir à notre micro afin d'évoquer non pas un de vos ouvrages, mais le MOOC intitulé « De la guerre » et que vous dirigez. MOOC, c'est la contraction de magazine et de book. Alors avant tout, Jean Lopez, pourquoi ce titre « De la guerre » ?
Eh bien, pour annoncer la couleur, on sait de quoi on va parler. On va parler du phénomène guerre et plus largement du phénomène militaire à toutes les époques. Et dans toutes ses composantes, hein, que ce soit les doctrines, les grands conflits, les armements, la stratégie, les hommes, l'uniforme, les chefs, toutes les questions relatives aux faits guerriers qui malheureusement accompagnent l'espèce humaine depuis au moins 20 000 ans. Et évidemment, la deuxième référence, les auditeurs l'auront compris, c'est au fameux ouvrage Vom Kriege en allemand. Ça sonne mieux en allemand, Kriege, de la guerre, écrit par Clausewitz au début du 19e siècle. Clausewitz, c'est un général prussien qui a fait les guerres de l'époque napoléonienne contre Napoléon, donc du côté de la Prusse, puis du côté du tsar Alexandre Ier de Russie, et qui, sur ses bases, a longuement réfléchi au phénomène guerrier dans sa composante politique et stratégique. Et il nous a semblé que ce penseur inégalé, hein, il continue toujours à être lu et relu dans toutes les écoles de guerre, ça revenait à placer sous d'heureux auspices notre entreprise.
Alors c'est un MOOC coédité par votre revue, Guerre et Histoire, et les éditions Perrin.
Oui, parce que il m'a semblé que c'était un beau mariage d'amour et de raison. Je pense que les deux, chacun dans leur domaine, sont les leaders, hein, de l'analyse de l'histoire du fait militaire, guerre et histoire dans le monde de la presse, et les éditions Perrin qui, année après année, bâtissent un catalogue tout à fait impressionnant sur ces questions.
Alors, vous l'avez dit, mais on fustige généralement l'histoire bataille, or l'histoire de la guerre est extrêmement riche. On peut être aussi dans l'histoire sociale, dans l'histoire économique, dans les sciences humaines de manière générale.
Absolument. Aujourd'hui, on ne peut plus réduire l'histoire militaire à l'histoire bataille, comme il a été de bon ton de le faire en France à une époque. Vous savez, même l'histoire bataille de grand-papa, elle a eu ses mérites. Elle a permis de poser un certain nombre de bases sur les événements. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de cela. Trop de disciplines annexes de l'histoire sont venues au rendez-vous pour expliciter le fait bataille. Je dirais, le fait bataille reste néanmoins fondamental. On ne peut pas assurer une guerre se dénoue en partie par les batailles, pas toujours, mais en partie par les batailles. Il faut vaincre l'ennemi. Alors on peut le vaincre de multiples façons, et souvent la bataille est tout de même une des façons clés de le faire.
Alors nous allons en venir au thème principal, qui est le titre de cette émission. Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter ? Mais avant tout, peut-être rappeler que vous naviguez aussi dans l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, Scipion l'Africain et Hannibal dans un portrait croisé.
Oui, dans un portrait croisé qui nous a été fait par un professeur à l'université de Bordeaux, François Cadieux. C'est un magnifique article qui nous explique que quasiment depuis presque l'époque de la deuxième guerre punique, s'est prise l'habitude littéraire de comparer ces deux hommes, Hannibal et Scipion l'Africain, qui comptent évidemment parmi les plus grands chefs de guerre de tous les temps. Monsieur Cadieux relève que, en fait, depuis Polybe et Tite-Live, on n'a pas cessé de comparer ces deux hommes qui, en réalité, ne se sont rencontrés qu'une seule fois. La deuxième fois est très sujette à caution. Une seule fois, c'était à la veille de la bataille de Zama, celle qui va définitivement assurer la prépondérance romaine dans le bassin occidental de la Méditerranée. Et ça donne lieu à une magnifique analyse sur qu'est-ce que c'est qu'un grand chef de guerre, tel que voyait Tite-Live au début de notre ère.
Alors, il y a aussi des infographies, c'est la grande mode des infographies, vous avez été précurseur aux éditions Perrin, et là, vous consacrez les infographies à trois grands désastres, Crécy, Poitiers et Azincourt.
Les trois grands désastres de la guerre de Cent Ans, ce qu'on apprenait quand j'étais petit, à la communale encore, hein, avec la date qui va bien derrière, il fallait pas les confondre. Oui, j'ai utilisé l'infographie parce que c'est intéressant de voir quelles sont les composantes non seulement tactiques, mais plus généralement opérationnelles de ces trois affaires-là, leurs conséquences sur la monarchie française, sur la guerre de Cent Ans en général. Donc ça donne lieu à des rencontres qui sont tout à fait étonnantes pour montrer quand même avec quelle constance la chevalerie française s'est fait étriller systématiquement en recourant toujours à la même façon de faire la guerre. On dit toujours ce sont les archers gallois qui ont trois fois vaincu les charges rageuses de la chevalerie française. Ce qu'on dit moins, et évidemment c'est un peu en dehors de ce trio de bataille, c'est que finalement les Français l'ont emporté. En remettant complètement en cause les bases de la guerre à leur époque. Hein. Ce sont toutes les réformes d'après Jeanne d'Arc qui ont finalement battu les Anglais à leur propre jeu.
Alors, autre bataille, celle de Malplaquet. Je laisse nos auditeurs découvrir ce MOOC. Il y a bien d'autres rubriques, une interview posthume de Grouchy, une présentation des uniformes de la guerre en armure à la guerre en dentelle. Je passe tout de suite à notre thème, donc Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter? Le principal conseiller d'Hitler, Alfred Jodl, disait que dès 1941, Hitler savait qu'il ne pouvait pas gagner la guerre. Quel crédit peut-on apporter à cette phrase?
On la cite souvent. Je pense que bon, alors Jodl, il la prononce quasiment au pied de la potence hein, quand il est à Nuremberg. Il a été condamné à mort, il va être pendu, et il rédige un certain nombre de notes dans sa cellule où il affirme que personne mieux qu'Hitler ne savait que la guerre était perdue à la fin de 1941. Je pense que ce que voulait dire Jodl, c'est que Hitler a compris à la fin 1941 que le scénario stratégique qu'il avait élaboré sur la défaite de la France à l'été 1940 avait échoué. Il faut peut-être que je revienne un peu en arrière pour expliquer à nos lecteurs de quoi il s'agit. Quand l'Allemagne rentre en guerre en septembre 1939, l'attaque de la Pologne est rapidement réglée avec l'aide des Soviétiques, l'air fort aimable des Soviétiques qui attaquent dans le dos, elle est réglée en 3 semaines. S'ensuit une très grosse polémique au sein des états-majors allemands. Visiblement, les généraux allemands craignent la France. Ben, ils se souviennent tout de même de ce que fut la Première Guerre mondiale, du courage du Poilu, de Verdun, des magnifiques offensives en tiroir de Foch en 1918. Donc ils ne sont pas tranquilles et ils élaborent un plan qui est un mauvais plan. Bref, les Allemands ne sont pas sûrs du tout de la victoire, c'est un gros morceau. Le seul qui a véritablement confiance, c'est Hitler. Toujours est-il que pour tout le monde, cette guerre doit cesser avec la défaite de la France. La stratégie est simple, la France, c'est le bouclier, plutôt l'épée de l'Angleterre sur le continent. Briser cette épée, l'Angleterre n'aura pas d'autre choix que de demander la paix. Voilà l'alpha et l'oméga de la stratégie hitlérienne en 1939. Ce qui fut dit fut fait, à la stupéfaction des généraux allemands eux-mêmes, et évidemment à la grande joie d'Hitler, la France est terrassée en 6 semaines. Elle est battue comme rarement nation a été défaite dans l'histoire, et les Allemands se retrouvent sur toute la côte atlantique, celle de la mer du Nord et de la Manche, juste en face de l'Angleterre. Et là, pendant un mois, Hitler va attendre ce qui semble la suite logique, c'est-à-dire que les Anglais lèvent la main pour dire « Et si on discutait des conditions de la paix ?» Mais là, rien ne vient. Au contraire, la position de Churchill à Londres est renforcée et l'Angleterre montre sa détermination à continuer la guerre. D'ailleurs, en partie sur le dos des Français, c'est l'épisode de Merselkébir hein, qui vise non seulement à empêcher un ralliement de la flotte de Merselkébir aux Allemands, mais éventuellement, en deuxième lieu, à montrer à Hitler que l'on va jusqu'à tirer sur l'ami de la veille pour manifester sa détermination à continuer le combat. Stupeur dans les rangs de l'état-major allemand, qui se dépêche en catastrophe d'élaborer un nouveau scénario. Que faut-il faire maintenant pour gagner la guerre? On a cru que la chute de la France allait suffire, et on se rend compte que ça ne suffit pas, les Anglais restent au combat. Comment faire? Donc Jodl, que vous avez cité tout à l'heure, qui est un des principaux conseillers allemands, mais également le général Halder, qui est responsable de l'armée de terre, et d'autres encore, proposent des stratégies alternatives. Les uns parlent d'aller débarquer en Angleterre, on commence d'ailleurs à mettre en place les bases de cette affaire. D'autres disent qu'il faut aller gagner la décision d'abord dans les airs au-dessus de l'Angleterre. Göring commence à faire la roue pour se dire que sa Luftwaffe allait amener les Anglais à récipiscence. Un troisième courant voudrait qu'on porte la guerre essentiellement en Méditerranée, s'emparer de Gibraltar, du canal de Suez, et pousser les Britanniques hors de cette route traditionnelle des Indes. Hitler dit oui du bout des dents à tout ça. Mais on sent que le cœur n'y est pas. Il se retire quelques semaines à Berchtesgaden, endroit où il, en général, il va incuber sa stratégie, et il en ressort avec une stratégie de remplacement, improvisé, ça a été très bien décrit il y a déjà une génération par un historien allemand remarquable qui s'appelait Andreas Hilgruber, qu'il appelle la stratégie improvisée de l'été 1940. Hitler reprend le même raisonnement pour la France, mais en l'appliquant à l'Union soviétique. Il raisonne ainsi. Quel est le dernier allié possible de l'Angleterre sur le continent européen? La seule puissance encore debout, c'est la Russie soviétique. Donc, si l'on veut amener Londres à déposer les armes,
il faut battre la Russie.
Il faut aller à Moscou. Alors, c'est un raisonnement stratégique. Ça montre une direction. Je m'empresse de dire que les généraux allemands ne sont pas convaincus. Ils ne voient pas en quoi aller à Moscou obligerait Londres à déposer les armes. Car tous savent que ceux sur qui compte Churchill, c'est pas Staline et l'armée rouge, que tout le monde juge des forces extrêmement faibles, qui seront défaites en quelques semaines par les Allemands. Non, c'est évidemment les États-Unis de Roosevelt et leur formidable puissance industrielle. Donc, les chefs allemands ne sont pas convaincus, et ils subodorent bien que Hitler veut aller à Moscou aussi pour des raisons, je dirais, macroéconomiques, s'assurer d'un empire, avec toutes les ressources qui manquent à l'Allemagne, notamment les pétroles, mais aussi les métaux non ferreux, les réserves en charbon immenses de l'Ukraine, et surtout les blés. S'assurer que l'Allemagne ne mourra pas de faim dans cette guerre-là comme elle l'avait fait dans la précédente. Mais bon, les Allemands, les chefs allemands sont obligés d'obéir, d'autant plus qu'ils n'ont pas de doute sur l'issue de la campagne. Ils sont sûrs qu'en 6 semaines, ils vont remporter la victoire sur l'armée rouge.
Alors, on va revenir sur la Russie, mais peut-être avant, il y a un article qui est consacré à la surévaluation, en quelque sorte, de l'armée allemande. Est-ce qu'en 1939, les forces de cette armée, du fait du prisme du Blitzkrieg, eh bien, est-ce que cette armée n'est pas surévaluée?
Elle est sans doute surévaluée. Il suffit de se reporter au discours au premier discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940, lorsqu'il accède à la présidence du Conseil, où il déclare que l'armée française a été submergée par la masse des tanks et des avions de l'ennemi. Nous savons que cette explication ne tient pas. La France et ses alliés avaient plus de chars que les Allemands, une artillerie de bien meilleure qualité. Ce n'est pas ça qui a donné la victoire aux Allemands. C'est une nouvelle conception de la guerre. C'est une nouvelle conception de l'utilisation de forces mobiles rapides. Et c'est surtout, je dirais, que les Français ont commis toutes les erreurs que les Allemands pouvaient espérer, et même au-delà. On ne dira jamais à quel point la stratégie méditée longuement par le général Gamelin est responsable du désastre français. Dans quelques semaines va sortir une très bonne biographie du général Gamelin par un excellent historien de l'armée française de l'entre-deux-guerres, Monsieur Schiavon, qui va, je crois qu'il méritera d'être médité parce qu'on voit à quel point Gamelin porte une responsabilité écrasante dans le désastre. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Les Allemands n'en demandaient pas tant. Ils avaient un outil affûté. Ils n'avaient pas du tout un outil impressionnant. Donc, je dirais que oui, on l'a surestimée en la voyant plus forte qu'elle était, mais en même temps, on l'a sous-estimée en ne voyant pas l'ampleur de la révolution tactique qu'elle avait introduite. C'est évidemment le fameux couple blindé-aviation, cette façon de concentrer ses forces en un point unique et d'aller très vite se répandre sur les arrières de l'ennemi. Ça, c'est quand même quelque chose de neuf. Les Anglais en ont fait la cruelle expérience, les Yougoslaves, les Grecs, peu de temps après, auront la même déconvenue, les Soviétiques dans la première année également. Il y a donc du solide et du neuf dans cette armée allemande, mais il y a aussi des pesanteurs et une certaine vétusté. 80% des divisions vont à pied, pratiquement comme en 1914. L'armée compte autant sur le cheval que sur le moteur à explosion. Elle n'a pas suffisamment d'aviation. Son outil logistique est très imparfait. Donc, elle a beaucoup de points faibles. Mais ces points faibles ont été annulés par la façon dont les Français ont pris cette campagne, ont vu et mené cette campagne. Il n'empêche que du côté allemand, il y a une espèce d'ivresse qui s'empare du fait d'avoir battu la France en 6 semaines, avec seulement 45 000 tués, là où le Kaiser, pendant la Première Guerre mondiale, avec plus d'1,5 million de tués sur le front français, n'est arrivé à rien. Hitler, en 6 semaines, est arrivé, il a tenu cette promesse qui semblait insensée à tout le monde, celle de terrasser l'armée française comme ça d'une pichenette. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Keitel lance l'idée qu'il est le plus grand capitaine de tous les temps. Donc Hitler, visible, commence effectivement à décoller un petit peu dans le ciel de sa gloire, et les généraux allemands commencent à se dire, on a en Hitler peut-être finalement peut-être le plus grand stratège de tous les temps.
Et est-ce que ce stratège est aussi un bon diplomate, parce que non. Sa vision en soi, vous l'avez montré au début de votre propos, tabler sur l'appeasement, sur les Anglais, était en soi une erreur. Et d'ailleurs, on a, au même titre que le Blitzkrieg biaise notre perception, on va dire que Munich et le pacte germano-soviétique biaise aussi la vision, notre vision de la qualité de la diplomatie d'Hitler.
Alors, si vous voulez, Hitler n'est pas un diplomate au sens traditionnel. Il a opéré au début des années 30 ce qu'on a appelé une révolution diplomatique, c'est-à-dire qu'il a jeté par-dessus bord tous les usages diplomatiques. Il s'est permis systématiquement de mentir, de ne jamais tenir sa parole, de jouer sur des coups de en allemand il y a un très beau mot qui va banque spiel, on s'est joué à la roulette. Hitler en permanence met tout sur le tapis. On a dit souvent que si Staline était un joueur d'échecs, Hitler était un joueur à la roulette, mais c'est exactement ça. À chaque fois, il remet toute sa mise sur le tapis, il parie sur le fait que ses adversaires n'auront pas le courage d'entrer en guerre. Ça a marché en 36, quand il a remilitarisé la Rhénanie. Ça a marché en 38, en mars, quand il annexe l'Autriche. Personne ne part en guerre. On se contente de plates protestations diplomatiques. Ça marche encore à Munich. Sauf qu'à Munich, Hitler voulait vraiment sa guerre contre la Tchécoslovaquie. Il voulait voir si son instrument fonctionnait. Et il n'aura pas la guerre, parce que Mussolini intervient et lui donne un succès diplomatique, qui est l'annexion des Sudètes. Succès diplomatique qui va lui-même outrepasser. Et c'est là qu'il commet sa première erreur fondamentale. À savoir aller plus loin, alors qu'il a promis aux Anglais qu'il irait pas plus loin, et pénétrer dans les pays tchèques, et annexer, donc établir le fameux protectorat de Bohême-Moravie, donc rentrer à Prague le 15 mars 1939. C'est de là que date la rupture complète avec les Britanniques, qui se rendent compte qu'ils ont été joués. Les appeaseurs, à savoir Chamberlain et Halifax, se rendent compte qu'ils ont été totalement floués, qu'Hitler n'est pas un gentleman, qu'il n'a aucune parole, et ils mesurent évidemment tout à coup la portée de ce laisser-aller depuis des années.
De leur croyance,
parce que, en même temps, c'est facile pour nous, évidemment, qui connaissons la fin de l'histoire, de porter des jugements sur cette époque. Mais quel Anglais, quel Français, après les épreuves épouvantables de la Première Guerre mondiale, peut imaginer qu'une nouvelle guerre va se déclencher 20 ans après? Qu'une nouvelle fois la jeunesse, mais aussi ceux qui ont déjà fait la précédente, va être rappelé à nouveau sous les drapeaux. Personne n'imagine une chose pareille. Genre, le pacifisme est une denrée extrêmement courante. Et Chamberlain et Halifax ne sont pas des criminels de penser que c'est une folie, que même Hitler ne peut pas vouloir cette guerre. Aucun des deux n'a lu véritablement Mein Kampf, aucun des deux ne croit aux déclarations idéologiques d'Hitler. Ils pensent que si l'on donne raisonnablement raison aux Allemands sur leur revendication qui est de rassembler tous les peuples germanophones d'Europe, eh bien, ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Sauf qu'il n'en a rien été, et je dis, la première erreur d'Hitler, c'est d'avoir poussé encore une fois son jeu trop loin en annexant la Bohême-Moravie, donc en s'emparant de territoires peuplés non pas d'Allemands, ce que les Anglais auraient pu accepter, encore une fois, mais de Slaves. Et en s'en emparant avec une hostilité visible de toute la population. À ce moment-là, il y a un retournement complet de l'opinion britannique et de la diplomatie britannique qui va se hâter, un peu trop vite peut-être, mais enfin, mieux vaut tard que jamais, de donner des garanties à un certain nombre de pays qu'elle estime être menacés par l'expansionnisme d'Hitler, en premier lieu la Pologne et en second lieu la Roumanie. La France, qui n'a plus véritablement de diplomatie indépendante, c'est un des drames de notre pays, elle est à la remorque de sa gouvernante anglaise, la France va emboîter le pas et également donner garantie à la Pologne et à la Roumanie en cas d'une nouvelle agression allemande.
Alors revenons-en à 1940, c'est pour cette raison que au fond Churchill c'est un personnage qui change toute la donne. Il y a une interview dans le MOOC de la guerre, l'avènement de Churchill était-il inévitable, une interview d'Andrew Roberts qui est l'auteur de la fameuse biographie de Churchill parue aux éditions Perrin en 2020. Que nous dit Andrew Roberts?
Andrew Roberts nous rappelle à quel point Churchill est un homme isolé. Il est isolé parce que il passe pour un type absolument fantasque, non fiable. Tout le monde se souvient de son fiasco retentissant pendant la Première Guerre mondiale, qui est l'expédition des Dardanelles, qui s'est terminée par un carnage et une défaite face aux Turcs. Il n'a pas d'amis au sein du Parti conservateur, ou si peu. Il est extraordinairement décrié. Et il énerve l'establishment britannique en dénonçant, et il est un des seuls en Grande-Bretagne, l'appétit d'Hitler. Dès 1935, il dénonce la politique d'appeasement. Mais il est quasiment seul à le faire. Cet homme ne pèse rien politiquement face à Halifax, ou face à Chamberlain, qui sont les ténors du parti. La véritable surprise, c'est celle de son accession au pouvoir. C'est quand même un fait assez extraordinaire. Et Roberts nous rappelle que tout s'est joué le 9 mai 1940, à huis clos. Malheureusement, on n'a pas les minutes de cette réunion, où se trouve là un personnage important de la Chambre, puis Chamberlain, Halifax et Churchill. Le cabinet Chamberlain a été mis non pas en minorité, mais a obtenu une majorité extrêmement bancale à un vote précédent aux communes. Donc Chamberlain sent qu'il faut élargir. Et il veut un cabinet du droit national. Pour ça, il lui faut l'appui des travaillistes. Et lui-même, sachant que les travaillistes ne veulent pas de sa personne, veut s'effacer. Mais à qui donner la responsabilité de Premier ministre? Je rappelle la date, nous sommes le 9 mai 1940, les Allemands n'ont pas encore attaqué à l'ouest. La grande offensive est du lendemain, du 10 mai. Normalement, le pouvoir aurait dû revenir à Halifax, le ministre des Affaires étrangères, qui lui est un ténor du Parti conservateur. Et il s'est passé, il y a eu un moment extraordinaire, hein, Owens a cette très belle formule, dit, à ce moment-là, on a senti la main de Dieu qui s'est posée sur cette réunion, c'est que Halifax se dégonfle. J'utilise cette expression triviale parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Halifax n'a pas voulu de la place. Il s'est pas senti les épaules. Il a argué d'une subtilité juridique. Il était membre de la Chambre des Lords. Et comme tel, il pouvait pas prendre cette place. Et comme Churchill était là, Churchill, il a levé la main. Et comme il s'était montré extrêmement déférent vis-à-vis de Chamberlain, et que Attlee, le patron des travaillistes, le lendemain va téléphoner en disant que, ben, finalement, oui, pourquoi pas, une solution de Churchill. Donc Churchill, c'est presque par surprise et par défaut. C'est par défaut. Il était là en tant que membre du gouvernement, parce que en septembre 1939, Chamberlain avait été obligé de lui donner un strapontin. Enfin, plus mieux qu'un strapontin, il était premier lord de l'Amirauté, c'est-à-dire ministre de la Marine. Mais c'est extraordinaire. C'est comme si la présidence du Conseil en France le 17 juin 1940 avait échu au colonel de Gaulle. C'est aussi stupéfiant. Évidemment, Hitler pouvait pas intégrer ça dans son calcul. Il pouvait pas intégrer que Winston Churchill allait arriver. Et surtout qu'il allait se maintenir au pouvoir. Parce que se passe-t-il? Dès que Churchill arrive au pouvoir, le 10 mai, c'est une suite de désastres. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que l'opinion publique britannique ne lui en a pas tenu rigueur à lui de ces désastres. Et là, quand même, une preuve de maturité démocratique du peuple britannique.
Mais à ses prédécesseurs.
Ses prédécesseurs qui ont été tenus pour responsables du fait de leur médiocrité politique face à Hitler. C'est extraordinaire. Là-dessus, évidemment, il y a eu le miracle de Dunkerque. Il a sauvé son corps expéditionnaire et il a pu écarter le 28 mai une tentative indirecte de Halifax de prendre langue avec Mussolini et donc avec Hitler. Là aussi, l'histoire, à un moment donné, est reposée sur la pointe d'une aiguille, puisqu'il y a l'esquisse d'Halifax qui voudrait demander aux Allemands, par l'intermédiaire de Mussolini, les conditions de la paix. Mais ça ne se fera pas. Et Churchill va mettre en minorité Halifax, il l'écartera ensuite. Ce pauvre Chamberlain aura la bonne idée de mourir d'un cancer en octobre 1940, ce qui fait que là encore, il y a une grande figure du parti conservateur qui va disparaître. Et peu à peu, Churchill va reconquérir son propre parti, mais ça ne se fera pas avant plusieurs années.
Alors, je reste en Angleterre. Est-ce que on ne surestime pas la Luftwaffe contre la Royal Air Force?
La Luftwaffe est une arme récente. Je vous rappelle que les Allemands... du fait du traité de Versailles, ils n'avaient pas le droit d'avoir une armée de l'air. Il n'y a donc pas d'aviation militaire allemande avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, alors que tous les autres pays en ont une, les Allemands n'en ont pas. Donc ils sont partis de pas tout à fait de zéro, parce qu'ils avaient un petit effort clandestin, mais enfin ils sont partis de très bas. Ils ont donc en quelques années construit très vite une armée de l'air. Très vite. Avec un certain nombre de partis pris et d'impasses. Ils ont mis le paquet sur la chasse pour obtenir la suprématie aérienne. Ça, là aussi, ils ont une avance conceptuelle dans ce domaine. Et sur l'aviation d'appui au sol, celle qui doit appuyer l'effort des chars et de l'infanterie sur le terrain. Mais ils ont négligé, par exemple, le bombardement stratégique, c'est-à-dire des bombardiers plus lourds qui vont loin à l'arrière du front ennemi pour détruire ses usines et ses villes. Et d'autre part, leur effort de développement aéronautique n'est pas assez large, ce qui fait que leur appareil de production est trop petit. Ils ne sortent pas assez de matériel. Or, je vous rappelle que contre la France, ils ont perdu 1000 avions. Ce qui fait que cette Luftwaffe, elle est extrêmement affaiblie au moment où va s'engager la fameuse bataille d'Angleterre. C'est le processus inverse en Angleterre. Les usines anglaises turbinent à fond avec les fameux Spitfire que les Allemands ne connaissent pas. Et puis, autre impasse très grave dont les Allemands vont se rendre compte rapidement, ils ont négligé la détection électromagnétique, le radar, alors que les Britanniques, depuis 1936, tendent une chaîne de radar d'alerte qui permet d'enlever à l'ennemi la surprise. Donc cette Luftwaffe, elle n'a pas démérité, la façon dont elle s'est comportée en Pologne, en France, et le travail qu'elle fera en Union soviétique fait d'elle probablement une des plus grandes armées aériennes de l'histoire. Mais en même temps, elle se présente face à l'Angleterre à l'été 1940 dans une situation extrêmement difficile, dans les pires conditions, puisqu'elle doit aller combattre au-dessus du territoire de l'ennemi, repérée à l'avance par une chaîne radar, attendue par des centaines de Spitfire ultramodernes. Et je vous rappelle que tout pilote britannique abattu sur son sol est récupéré et 24 heures plus tard il peut voler. Tout pilote allemand abattu est lui perdu pour toute la guerre. Donc si vous voulez, les Allemands n'auraient jamais dû engager dans ces conditions cette bataille-là. Ça, elle était quasiment perdante. Et on a beaucoup exagéré, les Britanniques ont beaucoup exagéré dans leur histoire, évidemment, mais c'est finalement de bonne guerre, dirais-je. Ils ont beaucoup exagéré le fait que la bataille d'Angleterre s'est jouée à un cheveu. En fait, on sait aujourd'hui qu'elle s'est pas du tout jouée à un cheveu. La marge de supériorité de la Royal Air Force n'a fait que s'accroître avec les semaines qui passaient de juillet à septembre 1940.
Alors, je reste du côté des forces alliées. Du côté de l'Uchronie, Vincent Bernard, dans le MOOC, se pose la question de la non-intervention des États-Unis en Europe, en tout cas. Ce qui signifierait, on aurait pu très bien avoir une intervention de matériel, d'armes, d'envoi, oui, de matériel, mais pas d'hommes. La victoire aurait été possible avec cela, simplement ?
Alors, il faut pas aller trop loin non plus. En réalité, je dirais que à partir de l'été 1941, les États-Unis ont déjà un bras entier dans la guerre contre l'Allemagne. Non seulement ils fournissent de grosses quantités de matériel de guerre et de produits stratégiques comme de l'essence d'aviation, mais en outre, ils ont prêté des navires de guerre à la Royal Navy. Mais en outre, ils accompagnent avec leurs propres escorteurs les convois de matériel britannique jusqu'au milieu de l'Atlantique, où se trouvent les sous-marins allemands. Et on a un certain nombre d'incidents graves entre des sous-marins allemands et des navires britanniques. Donc on voit bien que petit à petit, vous avez là, au milieu de cet Atlantique, vous avez cette volonté allemande d'étouffer le commerce britannique et cette volonté américaine de maintenir l'Angleterre dans la guerre en lui apportant tout ce dont elle a besoin. Combien de temps est-ce que ce jeu du chat et la souris allait-il durer ? Ça pouvait pas durer éternellement. Alors bien sûr, les Japonais, en attaquant Pearl Harbor, ont tout dénoué. Mais on ne voit pas, honnêtement, on ne voit pas comment les États-Unis auraient pu accepter une défaite complète de la Royal Navy, donc de la Grande-Bretagne, et abandonner l'Atlantique Nord. C'est pas possible. On ne voit pas comment, vu l'importance de cette zone pour eux, de même que pour le Pacifique de l'autre côté, on ne les voit pas. C'est pas pour rien qu'ils ont une navire des deux océans tout de même. C'est quand même le pays qui veut maîtriser ces deux façades, façade atlantique et façade pacifique. D'un point de vue géopolitique, ça n'est pas pensable. Donc peut-être qu'ils seraient rentrés un peu plus tard dans la guerre, mais de toute façon, il est évident qu'ils y seraient rentrés.
Alors vous avez consacré une énorme somme à Barbarossa, donc peut-être en quelques mots, peut-on dire que Hitler a perdu la guerre en Russie ?
Je dis perdu la guerre, c'est encore un tout petit peu trop pour le dire. Ce qu'on peut estimer, c'est que son plan stratégique, esquissé dans la hâte à l'été 1940, a échoué. Il voulait battre la Russie en quelques mois, démobiliser en partie, enfin donc, battre la Russie, ça voulait dire détruire l'armée rouge, ça voulait dire éliminer le régime des soviets, le repousser au-delà de l'Oural, et se consacrer à l'exploitation des richesses soviétiques. Ce qui lui aurait permis de démobiliser la moitié de son armée, de renvoyer les ouvriers dans les usines, et de préparer la grande explication avec les anglo-saxons, car, ne l'oublions jamais, cette guerre à un troisième round pour Hitler, même s'il avait combattu l'Union soviétique, c'était le grand règlement de compte avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais pour battre ces deux puissances, il faut une aviation et une marine extrêmement puissantes que l'Allemagne n'a pas. Donc il est indispensable dans ce contexte d'abattre très vite la Russie pour démobiliser une partie de l'armée, gonfler l'appareil de production, utiliser les matériaux stratégiques disponibles en Union soviétique et commencer à bâtir la flotte aérienne et navale dont l'Allemagne a besoin pour dominer une partie de l'hémisphère nord. Ça échoue. La contre-attaque soviétique du 6 décembre 1941 sous les murs de Moscou, l'épuisement total de la Wehrmacht oblige Hitler à penser à une seconde campagne, ce qu'il n'avait jamais envisagé avant. Il pense donc qu'en 1942, il a encore une chance. Son calcul est le suivant. En 1942, il me reste une chance d'abattre l'Union soviétique, tout au moins de lui enlever la ressource essentielle qui permet de paralyser son effort de guerre, le pétrole de Bakou. Donc on voit la campagne de 1942, celle qui finit à Stalingrad, elle est déjà en germe à la fin 1941. Et il pense qu'il aura le temps de battre les soviets en 1942, parce qu'il est certain que les Japonais vont occuper les Américains dans le Pacifique. Il n'a pas prévu que les Américains seraient capables de mener concomitamment et parallèlement deux efforts de guerre gigantesques, un dans l'Atlantique et un autre dans le Pacifique. Donc tout son système est basé sur des prémices qui sont fausses, hein, celle d'une Amérique qui ne serait pas capable de mener les deux guerres en même temps, et cette seconde prémisse fausse qui consiste à dire oui, l'Union soviétique finalement ne m'a tenu tête que qu'à cause de l'hiver, hein, c'est le mythe du général hiver qu'Hitler a créé lui-même de toutes pièces. Il pense qu'une deuxième campagne d'été va lui permettre de battre les soviets. Personne ne le contredit à l'état-major allemand, tout simplement parce que l'Allemagne n'a plus d'autre option stratégique. C'est tout miser une nouvelle fois sur une deuxième campagne à l'Est. Sauf que cette fois, l'Allemagne n'a plus la belle armée qu'elle avait le 22 juin 41. Il lui manque 1 million d'hommes, il va lui manquer des avions, et elle va lancer une offensive seulement sur la moitié du front, qui sera une offensive du pauvre. Parce que pour pouvoir aligner un maximum de divisions, Hitler va faire appel à des divisions de deuxième zone, celles des Roumains, des Hongrois et d'un certain nombre de ses alliés les plus faibles. Donc, il n'a pas perdu la guerre, mais il ne peut plus la gagner dans les termes où il avait posé la victoire.
La messe est dite en 1943, alors?
La messe est dite, pour moi, la messe est dite au tournant 42, à la fin 42. Elle est définitivement dite. C'est-à-dire, ce que j'entends par la messe est dite, ça veut dire que l'Allemagne ne peut même plus arriver à un pacte. Elle va vers une défaite totale.
Donc, Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter? Il avait cette chance, au fond, jusqu'en 1942.
Il a eu une chance. Il avait une petite chance d'éviter la défaite jusqu'en 42. Il avait une chance de gagner, à mon avis encore très mince, si Churchill avait été renversé ou si Churchill n'avait pas été nommé, si on peut faire des uchronies, mais ça n'a pas beaucoup de sens en histoire et on va vite arriver à des contradictions. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, je pense que l'Allemagne, dès le départ, Hitler en l'occurrence, a une stratégie totalement insensée, qu'elle a les yeux bien plus gros que le ventre et qu'on n'a jamais été en mesure de gagner cette guerre-là. Ça n'est pas possible.
C'est l'hubris.
Ah oui, c'est vraiment l'hubris comme on en a rarement vu dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que cette guerre continue tellement à fasciner. Et l'objet de cette fascination, c'est que les Allemands voient bien qu'ils sont perdus dès le début 43, et pourtant ils vont continuer jusqu'à la fin. C'est ce qui parfois les rend un peu effrayants. Ils ne se bougent jamais vaincus.
Eh bien, merci beaucoup, Jean Lopez, d'être venu à notre micro. Peut-être un dernier mot, parce que vous venez de diriger un petit ouvrage paru chez Tempus, 200 questions, 200 réponses sur la Seconde Guerre mondiale. D'où viennent ces 200 questions ?
Ce sont les lecteurs de Guerre et Histoire qui, sur les 10 années écoulées, nous ont posé toutes les questions, parfois un peu curieuses, qui leur viennent à l'esprit sur le grand conflit. Et nous nous sommes efforcés, avec un grand sérieux, en interrogeant les meilleurs historiens, de répondre à ces questions. Donc ça donne ce petit livre très vif, avec des entrées tout à fait surprenantes, à des questions que tout le monde s'est posées un jour sur tel ou tel aspect. Alors ça va dans toutes les directions, hein, vraiment.
Je prends au hasard, pourquoi l'Allemagne envahit-elle l'URSS au lieu de concentrer ses forces en Afrique en 1941 ?
Par exemple.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, De la guerre, Hitler a-t-il eu une chance de l'emporter ? Une coédition Guerre et Histoire à édition Perrin au prix de 16 euros. Vous pouvez le trouver, je crois, jusqu'à la fin juillet dans tous les, vos marchands de journaux, ouais. En fait. Et après, vous pouvez le commander ou bien le trouver en librairie. 200 questions, 200 réponses sur la Seconde Guerre mondiale paru aux éditions Tempus, la collection de poche des éditions Perrin. Il me reste à vous saluer, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité. Profitez de vos vacances pour écouter donc toutes les émissions que vous n'avez pas pu découvrir jusqu'à présent. Je vous donne rendez-vous le 30 août avec beaucoup de nouveautés. Bel été et très bonnes vacances à vous. Merci.